Radio Galère 88.4 de la bande FM marseillaise DAB+. L'histoire continue et permanente, une émission d'Éric Lebreux. Aujourd'hui, mémoire de militants, Jacques Chourquet du Maquis au Maoïsme. Cinquième partie, vivre avec les fiancés juifs sous l'occupation.
Actualité pâtée du 10 mai 1940.
À Paris, le président de la République vient d'assister à la finale de la Coupe de France de football qui, au Parc des Princes, oppose le Racing Club de Paris à l'Olympique de Marseille. Les joueurs parisiens sont en maillot rayé, ceux de Marseille en blanc. La partie est tout de suite très animée et le ballon évolue presque régulièrement d'un camp à l'autre, obligeant les Gaules à de fréquentes interventions. La mi-temps les trouve à égalité, 1-1. La seconde partie du match est beaucoup plus agitée. Le Racing marque un deuxième but. Sa victoire sur l'Olympique de Marseille lui assure la possession de la Coupe de France. Ce printemps ramène en France les visiteurs étrangers de plus en plus nombreux malgré l'état de guerre. Il ne s'agit pas de ces touristes très suspects qu'on voit depuis quelque temps envahir littéralement certains pays neutres, mais d'authentiques voyageurs épris des beautés du doux pays de France. Les efforts accomplis par le Centre National d'Expansion du Tourisme commencent donc à porter leurs fruits. Au Palais de Jaillot, à Paris, la Loterie Nationale a illustré en quelque sorte cette reprise de l'activité touristique en plaçant la 9e tranche sous le signe du tourisme.
Pendant la drôle de guerre, je suis lycéen en ce qu'on appelle aujourd'hui terminale, mais en classe de mathématiques élémentaires au collège de Poligny, au collège Jules Grévy à Poligny dans le Jura. À cette époque-là, nous vivons un certain nombre d'alertes aériennes parce que les Allemands viennent quelquefois bombarder du côté de Dijon. Et à vol d'oiseau, nous ne sommes pas très loin de Dijon, à 50 ou 80 kilomètres. Nous entendons quelquefois, ils bombardent aussi du côté de Dole, à Tavaux, et nous entendons même les détonations de ces bombardements. Alors la sirène de la commune de Poligny retentit et tous les élèves sont précipités, on les emmène très vite avec leurs profs, tout ça, dans des caves. Et nous avons des caves au collège, qui est d'ailleurs un ancien édifice de moines ou je ne sais pas quoi. Et il y a des caves très profondes et on est là-dedans. Moi, je vais te dire une chose très honnêtement, c'est que nous étions des gamins, hein. On pensait à rigoler, on chahutait, il y avait les filles et les garçons, on en profitait pour s'amuser avec les filles et les filles avec les garçons, et c'était pas autre chose. On n'avait aucune, moi je dis les choses telles que je les ai vécues, on n'avait aucune conscience réelle de ce qui se passait et du danger. Là je parle de la période de la drôle de guerre. Il est évident que par rapport à ce que devenaient mes amis, les gens pour qui j'avais de la sympathie, qui étaient les communistes, j'étais complètement coupé et je ne le savais pas. Je ne savais pas ce qui se passait exactement. Je ne l'ai su que après, que plus tard. Mais c'est sûr que j'étais profondément anti-hitlérien. Sur la question du pacte, j'ai dit ce que il fallait en penser. Ça se posait pas à ce moment-là pour le jeune homme que j'étais. Mais ces alertes vont déboucher sur petit à petit, on va avancer de mois en mois. Et puis en juin 40, il va y avoir l'invasion de la France. Et puis il va y avoir la débâcle. Alors là, j'ai une vie extrêmement intense.
Et qu'on se battait sur mer, sur le front français, un calme relatif régnait depuis le début de la guerre, jusque dans les éléments avancés, où nous voyons vivre un régiment d'infanterie. Le programme des travaux, de la garde, des repas, des loisirs, se répétait chaque jour exactement. Seuls ceux du corps franc, en accomplissant leur périlleuse mission, avaient l'impression chaque fois de vivre une nouvelle aventure. À portée de voix de l'ennemi, encore immobile dans ses abris, les soldats français vivaient cette existence toute consacrée au labeur, au recueillement, à la vigilance, lorsque le 10 mai, une heure avant l'aube, les hordes allemandes venaient déferler sur la Hollande, la Belgique et le Luxembourg, violant ouvertement leur neutralité. Hitler répète le crime de Guillaume II qui, dès le début de la guerre de 1914, envahissait la Belgique. L'armée belge opposa alors une farouche résistance et accomplit des prodiges d'héroïsme sous la conduite de son souverain, le roi Albert Ier. La Belgique se retrouve comme en 1914, avec cette différence cependant que la surprise, cette fois-ci, ne joue pas. L'aviation allemande a survolé en même temps la France, laissant tomber ses engins sur des points dénués d'intérêt militaire, tuant et blessant des innocents. La France, dont il est si souvent parlé dans Mein Kampf, La France, but final de la rue allemande, va secourir les petits pays attaqués. Hitler le sait et prétend en empêcher, en venant tuer chez elle femmes et enfants, détruire des écoles, des hôpitaux, des églises.
Car figure-toi que, au moment de la débâcle, en juin 1940, mon père me dit, voilà, il avait une traction avant, familiale, il me dit, si les Allemands arrivent, parce qu'ils approchaient à marche forcée de chars, si les Allemands arrivent ici, moi je resterai à la tête de l'établissement scolaire dont il avait la responsabilité avec ta mère, mais toi tu prendras la voiture, tu emmèneras ton grand-père qui était vieux et qui commençait, mon grand-père l'anticlérical, mais qui commençait à perdre un peu la tête, tu emmèneras Angonin qui est un maître d'internat, et tu emmèneras aussi ta petite sœur et deux Alsaciens que nous avions qui étaient réfugiés d'Alsace pendant la drôle de guerre justement dans l'internat du collège de Poligny, Leufer et le second, je ne me rappelle plus bien, et Müller, Leufer et Müller. Et effectivement, les Allemands arrivent. Avant qu'ils arrivent, mon père est prévenu par téléphone par le principal du collège d'Arbois qui est à 10 km, il dit les Allemands sont là. C'était en pleine nuit, à 3 heures du matin, ma mère vient me réveiller, elle me dit tu pars immédiatement avec la voiture et tout le monde en monte. Et nous voilà, nous retrouvant avec cette voiture archi bondée. Mon grand-père qui était dehors, derrière et qui dormait à moitié, nous voilà embringués. Parce que j'avais passé mon permis, j'avais donc 18 ans, j'avais passé mon permis de conduire 15 jours avant. Je savais conduire depuis longtemps, mais je l'avais permis parce qu'on avait rabaissé de 21 ans à 18 ans, en temps de guerre, la possibilité de passer le permis de conduire. Donc nous voilà embringués dans la débâcle. Il faut l'avoir vécu. Et il y a quelques images de films et de journalistes qui existent, mais il faut l'avoir vécu pour savoir ce que c'était. C'est monstrueux, monstrueux. C'était une fuite éperdue sur les routes. Et pour aller de Poligny dans le Jura, en passant par Saint-Amour et Bourg-en-Bresse, si mes souvenirs sont exacts, jusqu'à Lyon, il nous a fallu presque la journée. Ce n'est qu'à partir de Lyon que ce flot ininterrompu et terrible de malheureux, de gens avec des baluchons, tout ça, ont commencé à se disperser un peu. Et après Lyon, on a pu rouler beaucoup plus rapidement. Et j'ai pu arriver beaucoup plus rapidement jusqu'à Romans, où j'avais une tante dont le mari était d'ailleurs mobilisé. Il allait être prisonnier de guerre. Et on a pu arriver chez cette tante à Romans. Ça, c'était notre débâcle. J'en précise simplement qu'au cours de cette débâcle, Saint-Amour, brusquement la colonne est bloquée, on entend des bruits d'avions et des explosions. Et on voit tous les gens devant nous qui sautent des voitures et qui courent dans les champs se mettre à plat. Nous en faisons autant, sauf le grand-père qui bouge pas, qui reste dans la voiture, qui ne veut pas bouger. Et ma petite sœur, moi je m'occupe de ma petite sœur, qui est d'ailleurs la doctoresse Maillet aujourd'hui, qui a 65 ou 66 ans, elle est médecin en retraite. Je m'occupe de ma petite sœur qui à l'époque doit avoir 11 ou 12 ans. Et je la protège, et on est très impressionné parce que il y a un bombardement, et on apprend que ce sont les Italiens qui sont entrés en guerre la veille ou l'avant-veille pour profiter de la victoire allemande, qui viennent bombarder les colonnes de réfugiés. Alors, une indignation extraordinaire contre ces Italiens fascistes par-dessus le marché. Nous ne sommes pas touchés, nous remettons à circuler, et puis 100 mètres plus loin, nous voyons les dégâts causés par les bombardements des avions de Mussolini. Nous n'avons jamais su s'il y a eu des tués, s'il y a eu des blessés, tout ça. On a continué dans cette... Parce qu'on marchait, c'était, tiens, on vient de vivre des grandes grèves avec des embouteillages monstres dans la région parisienne et même aux alentours de Marseille. Mais je pense que c'était la même chose. On marchait par choc contre par choc, littéralement, quand c'était des voitures ou des camions. Parce qu'il y avait aussi des voitures tirées par des chevaux, même des bœufs, des choses comme ça. Fallait voir, c'était un bric-à-brac extraordinaire. Alors ça, je m'en souviens très très bien, et je vais me retrouver finalement à Marseille, deux ou trois jours après, avec mes copains. Nous allons, pour éviter à ma grand-mère à Marseille, à la rue de Lodi, d'avoir tout ce monde chez elle, parce qu'elle était quand même déjà âgée, nous allons nous faire interner au lycée Thiers par M. Ponce, qui est le proviseur et qui était un ami de mon père. Nous allons donc dormir. Mais nous sommes encore très inconscients, parce qu'avec mes copains, on ne pense qu'à une chose, c'est d'aller au cinéac, d'aller voir le cinéma. On a un petit peu d'argent. Moi, j'avais fait surveillant d'internat. C'était la période de la guerre, donc il fallait... J'étais en mathélem, mais en même temps, j'étais surveillant d'internat. Donc j'avais mis un peu d'argent de côté, je m'achète un premier appareil photographique, mais on n'était pas très conscient de ce qui s'était passé.
À l'appel de Monsieur le Président de la République, j'assume à partir d'aujourd'hui la direction du gouvernement de la France. Sur de l'affection de notre admirable armée qui lutte avec un héroïsme digne de ses longues traditions militaires contre un ennemi supérieur en nombre et en armes. Sûr que par sa magnifique résistance, elle a rempli nos devoirs vis-à-vis de nos alliés. Sûr de l'appui des anciens combattants que j'ai eu la fierté de commander. Sûr de la confiance du peuple tout entier. Je fais à la France le don de ma personne pour atténuer son malheur. En ces heures douloureuses, je pense aux malheureux réfugiés qui, dans un dénuement extrême, sillonnent nos routes. Je leur exprime ma compassion et ma sollicitude. C'est le cœur serré que je vous dis aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec moi, entre soldats, après la lutte et dans l'honneur, des moyens de mettre un terme aux hostilités.
Le passage à Marseille, je remonte donc avec mes copains à Poligny dans le Jura, et là, comme nous sommes membres des auberges de jeunesse, je suis agiste, on était assez inconscients, insouciants, nous faisons des grandes balades, et c'est lors d'une de ces promenades en vélo que nous avons un incident très vif à Pont-du-Navois, près du lac de Chalin, dans le Jura, avec un officier, probablement de l'armée d'armistice, le lieutenant Dudenhofer, on a su son nom et pour cause par la suite. Alors quand on était arrivé en bande de 10 ou 12 jeunes, séparés d'ailleurs en deux groupes, 10, 12 d'un côté puis 3 ou 4 derrière dans lesquels j'étais, cet officier avait commencé à faire des réflexions, d'après mes copains, contre les auberges de jeunesse, la pourriture du Front Populaire qui avait amené cette débâcle, etc. Et mes copains l'avaient mal pris, parce que comment ils s'étaient rendu compte qu'on était des agistes, c'est parce qu'on avait tous des petits drapeaux fixés sur nos cadres de vélo, les drapeaux des auberges de jeunesse. Et alors mes copains l'avaient insulté, injurié proprement, espèce d'embusqué, enfin je sais pas ce qu'il lui avait dit exactement, et ils étaient partis en vélo, il n'avait pas pu les attraper, et il était tout seul. Et quand, 2 minutes après, j'arrive avec mon propre groupe, je tombe, là il avait alerté des gendarmes, et je me fais attraper par des gendarmes avec mon camarade André Thiébault et 2 ou 3 autres, et il nous demande nos identités, il nous demande si on était avec le groupe qui précédait, on lui dit que oui, c'était la vérité, il n'y avait pas de raison de dire. Et quand on commence, ils nous relâchent, après qu'on ait décliné nos identités, on rejoint nos copains au lac de Chalin, on a fauché quelques pommes de terre dans des champs voisins, on commence à les faire cuire en plein air, sur une braise qu'on a préparée nous-mêmes, et tout à coup, on voit tout autour du mamelon où nous nous trouvons, des képis qui montent, puis après les képis, c'est des uniformes complets, et on est encerclé par les gendarmes. Et les gendarmes nous demandent à tous les identités, de nouveau, et on va être inculpé devant le tribunal militaire de Lyon, injure à officier en uniforme, enfin je ne sais plus exactement le terme. Il a fallu, pour que je me sorte de ce mauvais pas, il a fallu que mon père jure devant des officiers sur sa Légion d'honneur qui était à titre militaire et de blessé de guerre, jure que je n'étais pas du tout dans le coup et que j'étais pour rien. D'ailleurs, mon copain René Tamizier a tout pris sur son dos, a déclaré que c'était lui qui avait, d'ailleurs il avait fait une fausse déclaration d'identité, il a tout pris devant le tribunal. Et quand il est passé au tribunal, il a été condamné assez lourdement. Les peines encourues pour ce genre d'infraction, si l'on veut, d'injure à officier en tenue. Et dès qu'il allait repartir entre deux gendarmes, un capitaine s'est présenté à lui et lui a dit voilà, Tamizier, tu appartiens à une famille de vignerons de Franche-Comté, de Poligny et d'Arbois. Or, la ligne de démarcation passe entre Arbois et Poligny, à mi-chemin des deux, il y avait 10 km entre. Tu connais très très bien la région. Oui, oui, mon capitaine ou monsieur, j'en sais rien comment il le dit. Eh bien voilà, nous te libérons complètement si tu prends l'engagement de servir l'autorité militaire. Mais à quoi faire? Eh bien tout simplement à faire le passeur clandestin de ligne pour faire passer des officiers évadés d'Allemagne. Tu auras toutes les instructions sur place. Et Tamizier a accepté cet engagement. Il a effectivement fait le passeur de la ligne de démarcation pendant 2 ans, jusqu'à ce qu'il soit pris par les Allemands. Et il a eu une crise nerveuse très violente qui fait que les Allemands l'ont emmené à l'hôpital d'Arbois. À l'hôpital d'Arbois, les religieuses, qui étaient déjà plus ou moins liées à la résistance, l'ont fait évader. Et il se trouve que, ça je vais le raconter un peu plus loin, que quand moi je me suis retrouvé dans le maquis refuge du bois de Molin, en juin 43, je suis tombé, j'ai retrouvé mon camarade Tamizier qui était dans le même bois caché. Voilà, ça c'était donc, je ne veux pas anticiper sur les années qui vont suivre, c'était donc en 1940. Et le fait que j'ai fait de l'aviation populaire fait que j'étais absolument... comme tous les jeunes, un fanat du pilotage. C'est quelque chose de sensationnel de se sentir décollé à 17 ans vers le ciel. C'était la liberté la plus intégrale qui soit. C'était un enthousiasme formidable. On faisait un tour de piste à 200 mètres d'altitude ou une montée à 1200 mètres et on descendait en moteur calé. Et puis on atterrissait. Et puis ma foi, j'avais très bien attrapé le coup et puis je m'en sortais bien. Alors ça, c'était absolument extraordinaire. Du coup, j'avais fait ma TLM. Qu'est-ce que je choisis ? Je choisis de préparer l'école navale et l'école de l'air. Mais pas pour naval, surtout pour faire l'école de l'air et devenir par conséquent officier de l'armée d'aviation. Et pour faire ça, il fallait quand même faire au minimum une année d'hypotope, de mathématiques spéciales. Je pars donc comme interne avec quatre camarades. Je pars interne au lycée du Parc de la Tête d'Or à Lyon. Et en octobre 1940. Là, je vais y rester plusieurs mois. Je dis tout de suite que assez rapidement, je vais craquer en physique, pas en mathématiques, mais en physique, parce que Monsieur Gisardin, notre professeur de physique, va à une vitesse extraordinaire. Je craque, je peux plus suivre, quoi. C'est très très dur. Et début 41, par là, je vais retourner à Poligny, ainsi que trois de mes condisciples qui n'ont pas pu tenir le coup. Les classes de préparation aux écoles supérieures sont des classes très très dures, même aujourd'hui en 1995, que ce soit en hippocagne ou en hippotope, c'est la même chose, c'est très très dur. Et le seul qui restera, c'est mon ami Sigonnet, qui va réussir le concours de l'école de Grignon, l'école d'agronomie, et qui est devenu par la suite un grand directeur des laiteries de la Franche-Comté, et peut-être même aussi un très haut fonctionnaire du ministère de l'Agriculture. Je ne sais plus ce qu'est devenu Sigonnet. La seule chose que je sais, c'est qu'il sera réfractaire lui aussi, comme moi, que je le retrouverai lui aussi dans la forêt un beau matin. Alors voilà, ça c'est le passage au lycée du Parc. Mais avant de partir au lycée du Parc, toujours dans le cadre des auberges de jeunesse, j'avais fait des promenades à pied en montagne avec un groupe de copains et de copines. Et parmi ces copines, il y avait une jeune femme réfugiée qui se faisait appeler Marie-Louise, Marie-Lou. Et ma foi, elle me plaisait. Enfin, on avait notre âge, elle était un petit peu plus âgée que moi. Eh bien, je vais la retrouver après quand je reviendrai à Poligny, que j'y séjournerai. Et c'était en fait la future mère de mes enfants.
rencontrer une jeune fille qui était réfugiée à Poligny, à la frontière même de la ligne, tout près de la ligne de démarcation, mais du côté de la zone libre. Et cette jeune fille, c'est pas compliqué, elle devait devenir la mère de mes trois enfants. Et la première rencontre avec elle, elle se faisait appeler Marie-Louise. Cette Marie-Louise, la première fois que j'ai voulu l'embrasser, elle m'a dit, écoute mon petit, je dois te dire quelque chose, c'est que entre nous, il n'y a rien de possible. Ça, c'est pas possible qu'on soit amoureux l'un de l'autre. Pourtant, je t'aime, mais c'est pas possible. Mais pourquoi donc? Et alors, elle m'avait dit, mais tout simplement, elle avait des larmes aux yeux, parce que je suis juive. Alors effectivement, Mashla Feigenbaum était une immigrée avec sa famille depuis 1933 ou 34, venue de la Galicie orientale, qui est devenue après 45 l'Ukraine d'ailleurs. Là, c'était une juive polonaise si l'on veut. Quoi. Et son père et sa mère étaient là. Elle était l'aînée de 7 enfants. Et en 41, je sais que le 1er mai 41, nous l'avions passé dans la forêt ensemble. Et 9 mois après, est venu au monde ici à Marseille, alors, mon premier fils, Claude Jurquet, qui est maintenant maître, comment vous appelez ça, juste avant prof, maître de conférence, hein, à la faculté des lettres de Sousse. Et il est venu, il est né en janvier 42, le premier à Marseille. Et puis, la naturalisation française de ma jeune femme a été rejetée en vertu des lois antisémites du gouvernement de Vichy. Et à partir de ce moment-là, ma vie sous l'occupation nazie, elle se partage entre deux pôles essentiels. Je vis en famille de langue yiddish, c'est pour ça que j'ai appris à parler le yiddish, et juive. Et de notre côté, je suis communiste. J'avais tout ce qu'il fallait pour être bien vu des nazis.
Brumont, qui le premier en France, posa le problème juif dans toute son ampleur. L'Institut des questions juives commémore en présence de Madame Brumont le souvenir du courageux précurseur. À cette occasion, M. Laville a bien voulu nous dire quelques mots.
Sur 100 Français de vieilles souches françaises, 90 au moins sont de vrais blancs, purs de tout autre mélange racial. Il n'en est pas de même des juifs. Celui-ci est issu de métissage accompli il y a déjà plusieurs millénaires entre des Aryens, des Mongols et des Nègres. Le juif a donc un visage, un corps, des attitudes, des gestes qui lui sont propres. Il est réconfortant de voir que le public s'intéresse particulièrement à l'étude des caractéristiques du juif qui lui sont présentées dans la section morphologique de l'exposition « Le juif et la femme ».
Donc tu as fait un acte incroyable pour un résistant, c'est que tu avais été avec ta femme se faire recenser comme juive.
Ah oui, tout à fait. C'est avant, hein. C'est quand nous sommes arrivés ici pour nous marier en septembre 41, je dis bien. J'étais vraiment naïf, très naïf. Puis j'avais personne pour me conseiller. Il y avait à la rue, c'est une rue qui est près du rond-point du Prado, sur la droite, rue de Louvain peut-être, et il y avait un bureau des étrangers. Et comme ma femme, elle avait uniquement sa carte accordéon d'étrangère, mais à l'époque encore de polonaise, encore. J'ai cru bon pour la mettre en règle, j'ai voulu la mettre en règle. On est allé se présenter là-bas. Et là-bas, qu'est-ce qu'on a fait? On lui a retiré sa carte, et 8 jours après, on a reçu, et on a pris notre adresse, son identité et tout. Et 8 jours après, on a reçu une nouvelle carte, qui était une carte d'apatride. Elle n'avait même plus à la nationalité d'origine. Et c'était vraiment un acte complètement fou, parce qu'effectivement, ils sont venus, des Français d'ailleurs, des miliciens ou je ne sais pas quoi, ils sont venus pour essayer de la trouver, nous l'avons su par des voisins, ils sont venus aussi rue de Lodi, mais il y avait longtemps qu'on avait dégagé, ma mère l'avait dégagé. Dès que les Allemands sont arrivés à Marseille en novembre 42, ma mère est descendue du Jura, elle a dit à sa belle-fille, allez, tu viens avec moi, elle l'a emmenée avec le petit, et t'es comme ça.
Maréchal, nous revoilà, nous les petits enfants de France, nous que tu as rassérénés, à qui tu donnais l'espérance et des biscuits vitaminés. Maréchal, nous sommes là pour demander ton indulgence, car comme le dit Isarni, c'était toi la vraie résistance. C'est ça qu'on n'avait pas compris. C'est vrai qu'on s'en serait pas douté, que maréchal tu résistais, quand de Montoir tu nous disais, Français, il faut collaborer. Quand t'envoyais ta LVF combattre l'armée des soviets, alors qu'on pensait bêtement, c'est peut-être pas le moment.
Maréchal,
nous revoilà.
Nous revoilà.
Nous qui allions les jours de fête chanter à Lille ou à Mâcon. Ton hymne de nos voix fluette, sans savoir qu'il était si con.
Maréchal,
nous revoilà.
Nous revoilà.
Toi qui n'étais pas responsable de tous les crimes hitlériens, puisque bon vieillard respectable, évidemment, t'en savais rien. C'est vrai, maréchal, tu ignorais que tes miliciens torturaient. Tu condamnais De Gaulle à mort sans savoir que ça lui ferait du tort. Quand Hitler t'a dit vite, vite, votez les lois antisémites, tu as dit trop tard, mon Führer, je les ai fait voter hier.
Maréchal,
nous revoilà.
Nous revoilà.
Nous les anciens de la famine, pour te remercier des biscuits. Car je sens que ta vitamine va faire son effet aujourd'hui.
Maréchal,
nous sommes là.
Nous sommes là.
Pour que certains sortent d'un doute. Toi qui disais que les Français avaient tous la mémoire courte, ils vont voir que tu te trompais.
Maréchal,
nous revoilà.
Nous revoilà.
Maréchal, nous sommes là.
Nous sommes là.
Maréchal,
nous revoilà.
Nous revoilà.
Maréchal,
nous sommes là.
Nous sommes là.
Maréchal,
nous
revoilà.
Nous revoilà.
Maréchal,
nous sommes là.
Nous sommes là.
C'était L'histoire continue et permanente, une émission animée par Eric Lebreux sur les zones du Radio Galère 88.4 de la bande FM DAB+. Émission que vous pouvez réécouter et télécharger en podcast sur le site de Radio Galère.